Chapitre 33. Le mariage de Florence, fin. Pardaillan descendit vivement. Il n'avait pas perdu un mot de cette édifiante conversation. Il en avait appris 10 fois plus qu'il ne lui était nécessaire de savoir pour qu'il ne s'attarde pas à suivre Faustin chez les religieuses, comme l'idée lui en était venue un instant. Il partit. 20 minutes plus tard, il retrouvait ses compagnons qui s'ennuyaient à mourir dans cette carrière où ils se tenaient aux aguets dans l'attente d'événements qui ne se produisaient pas. Escargas et Landry Coquenard étaient là aussi. Ils avaient entendu une religieuse dire que Madame la Duchesse passerait la nuit au couvent. Ils avaient vu l'escorte partir et, selon les instructions reçues, ils étaient venus là. Quant à Valvert et à Gringaille, ils n'avaient vu personne. Pardaillan les emmena tous et 20 minutes plus tard, ils se trouvaient tous rassemblés dans la cuisine de cette ferme que Faustin venait de faire miner. Pardaillan alla jeter un coup d'œil à une fenêtre munie de solides barreaux. Il n'oubliait pas l'Espagnol à qui Faustin avait donné le titre de marquis. Il le vit dans le pré qui feignait de s'activer à de menus travaux. Cet homme le gênait pour ce qu'il voulait faire. Il réfléchit une seconde. Il sourit. Il avait trouvé. Il fit signe à ses compagnons de descendre. Lui-même descendit le dernier. Seulement, il avait pris la clé de la cave. Derrière lui, il ferma la porte à double tour, laissa la clé dans la serrure et descendit en se disant « Cet homme n'aura certainement pas l'idée de descendre dans cette cave après la besogne qu'il y a faite. Je m'imagine même qu'il évitera autant que possible d'entrer dans la maison, et cela se conçoit quand la maison est un volcan qui peut faire éruption à tout instant. Si cependant la fantaisie lui prenait de descendre, il pensera, voyant cette porte fermée et la clé disparue, que c'est sa maîtresse qui l'a voulu ainsi, et tout sera dit. » Durant plusieurs heures, Pardaillan, Valvert, Landry Coquenard, Gringaille et Escargas se livrèrent à nous ne savons quelle mystérieuse besogne. Bien avant la tombée de la nuit, l'Espagnol, qui, sans doute, avait affaire à Paris, avait tout fermé, ainsi que le lui avait recommandé sa maîtresse, et il était parti, emportant la clé de la porte du devant. Mais il avait laissé dans la serrure la clé de la porte de derrière. Pardaillan, Valvert et leurs compagnons s'étaient trouvés maîtres de la place. Leur besogne achevée, ils n'étaient pas partis. Ils étaient tous revenus dans la cuisine. Pendant que Pardaillan et Valvert demeuraient à s'entretenir longuement, Landry Coquenard, Escargas et Gringaille étaient partis. Tout simplement, ils étaient allés aux provisions. Et ils avaient soupé tous ensemble dans cette cuisine, comme s'ils avaient été chez eux. Quand la nuit fut tout à fait venue, Pardaillan et Valvert descendirent ensemble dans les caves. Pardaillan ouvrit la porte du souterrain qui conduisait à l'intérieur du couvent, et, une lanterne à la main, suivi de Valvert, il s'engagea dans cet étroit couloir. Près d'une heure plus tard, ils étaient de retour. Ils ramenaient avec eux la mère Périne et la petite Loïse que Pardaillan portait dans ses bras. Pardaillan était déjà au mieux avec sa petite fille. Il l'appelait Loïsette, Loison. Elle l'appelait grand-père, tirait sa moustache grise de ses petits doigts d'enfant et l'embrassait à pleines lèvres. Seulement, elle demandait à chaque instant « Et maman Muguette ?» À quoi Pardaillan, avec une patience inaltérable, répondait invariablement « Tu la verras demain, ma mignonne. » Ils partirent. Pardaillan voulait emmener tout son monde au Grand Passepartout, où il était sûr que l'enfant trouverait un bon lit et serait gâté et choyé en attendant d'être rendu enfin à son père et à sa mère, qu'il a pleuré depuis si longtemps. Il va sans dire que Pardaillan portait dans ses bras la mignonne petite qui dormait comme un ange sur sa large poitrine. Il s'était quelque peu attardé en effusion, en récit, en explication, et il n'avait pu marcher très vite à cause de la mère Périne qui n'aurait pu les suivre. En sorte qu'il était près de 11h30 lorsqu'ils arrivèrent à la porte Montmartre. La porte était fermée depuis longtemps, mais elle s'ouvrit au vu d'un ordre que Pardaillan exhiba. Il n'était pas loin de minuit lorsque Valvert se trouva en présence de Dame Nicole, à qui il avait bien fallu laisser le temps de passer un jupon et une camisole. Rendons-lui justice, elle pensa aussitôt à lui parler du billet qu'elle avait porté rue au Fer. Pris d'inquiétude, Valvert partit sur le champ sans rien dire à personne, Sans penser à avertir Pardaillan, qui, retiré dans une autre pièce, s'occupait gravement à bercer la petite Loisette, qui ne voulait ou ne pouvait plus se rendormir et ne s'était pas aperçu de ce départ précipité. Il arriva en trombe rue aux Fers, entra sans songer à prendre aucune de ses précautions ordinaires, franchit les marches 4 à 4, alluma précipitamment une cire et fondit sur le billet placé bien en vue au milieu de la table. Il le lut d'un seul coup d'œil et, chancelant, livide, le laissa retomber sur la table. Et un cri terrible jaillit de ses lèvres. « Foudre du ciel !» Il se rua dans l'escalier, bondit dans la rue, partit à toutes jambes. Il se trouvait à la croix du Trahoir lorsque les 12 coups de minuit tombèrent lentement dans l'espace, du haut de l'église même vers laquelle il volait à une allure telle qu'un bon cheval n'aurait pu le suivre. Et cependant, par un effort désespéré, il trouva encore moyen de précipiter cette allure en rugissant « Trop tard, j'arriverai trop tard !» Il arriva. Devant le porche de l'église stationnait un carrosse de voyage, attelé de 4 vigoureux chevaux. Il ne le vit pas. Il fit irruption dans l'église. Il y avait peu de monde, une 20aine de personnes. Tous des ordinaires de Concini, parmi lesquels messieurs Desnos, de Louvignac, de Montreval, de Chalabre, les 4 lieutenants du marié. Cette assistance, peu nombreuse mais choisie comme on voit, était massée devant le petit autel d'une chapelle latérale. Cet autel seul était éclairé. Au premier rang, d'un côté, Concini le père et Rospignac le marié. De l'autre côté, Léonore à la mère et Florence la mariée. C'étaient d'ailleurs les 2 seules femmes qui se trouvaient là. À l'autel, le prêtre, flanqué de 2 enfants de cœur, venait de commencer à officier. Valvert ne vit rien de tout cela. Il ne vit que Florence, pâle comme une morte, et, vaguement, ce groupe compact de gentilshommes qui le séparait d'elle. Il marcha droit à ce groupe, et un appel puissant, frénétique, jaillit de ses lèvres. « Florence, me voici !» Une clameur de joie folle suivit cet appel. « Odée, à moi !» Mais elle ne s'était pas contentée d'appeler à l'aide. Déjà, elle était debout. Déjà, profitant de l'effarement général, elle s'était précipitée. Et déjà lui, il était sur elle, il l'avait saisie dans ses bras. Déjà, la tenant enlacée, toute frémissante d'espoir et d'amour, déjà, il se dirigeait vers la porte, là, tout près, à 15aine de pas. Jusque-là, il avait agi comme dans un coup de folie. Son cerveau exorbité était incapable de raisonner. Tous ses gestes avaient été irréfléchis, machinalement impulsifs. Il n'aurait pas su dire ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ni même s'il voyait et entendait, et cependant, si un obstacle se présentait sur sa route, instantanément, l'obstacle était violemment écarté, franchi ou tourné, sans qu'il eût pu dire au juste ce qu'il avait fait et de quelle nature était l'obstacle. Une seule pensée lucide demeurait en lui et le guidait sûrement comme une étoile, arrivé coûte que coûte, avant que l'irréparable fût accompli. Et tout en se disant à chaque foulée « Trop tard, j'arriverai trop tard !» Il était arrivé quand même. Il était arrivé, il avait saisi la bien-aimée, et aussitôt, comme par enchantement, il avait retrouvé tout son sang-froid. Et il se mit à rire doucement, et il rassura. « Ne craignez rien, je vous tiens, je saurai vous garder !» Et elle avait répondu par un sourire qui disait et toute sa confiance et tout son amour. Il desserra son étreinte, il l'entoura de son bras gauche. Maintenant qu'il raisonnait, il comprenait à merveille qu'il ne pourrait pas s'en aller ainsi, tout simplement, sans en découdre. Non, ventre bleu, c'était de haute lutte qu'il lui faudrait la conquérir. Cependant, jusque-là, il n'avait pas songé à dégainer. Maintenant, il y pensait. Mais il ne voulut pas le faire avant d'avoir été provoqué. Peut-être, sans qu'il s'en rendît compte, était-ce le respect du lieu où il se trouvait qui lui en imposait. Il ne dégaina donc pas. Mais l'épée se tenait prête à jaillir du fourreau toute seule, pour ainsi dire, au premier geste suspect. Et la tenant étroitement par la taille, d'un pas rude, violent, et cependant égal et mesuré, il marcha à la porte. Dans l'assistance, ça avait été un moment d'effarement indicible. Le prêtre, à l'autel, s'était retourné, interrompant l'office. Puis une rumeur, une clameur de menaces terribles avait éclaté. La meute des assassins venait de reconnaître Valvert et elle donnait de la voix. Léonora s'était rapprochée de Concini, prête à lui faire un rempart de son corps, à donner, s'il le fallait, tout son sang goutte à goutte pour lui épargner une égratignure. Mais, toujours souverainement maîtresse d'elle-même devant le danger, elle avait glissé quelques mots à l'oreille de Concini. Et Concini s'était ressaisi. D'un geste impérieux, il avait cloué sur place ces assassins à gages qui déjà s'ébranlaient et leur avaient imposé silence. Et se tournant vers Rospignac d'une voix rude, « Eh bien, Rospignac, qu'attends-tu? Défends ta femme, corpo di Cristo !» Ainsi mis en demeure devant ses hommes, Rospignac s'exécuta, non sans une imperceptible hésitation toutefois. Il était brave pourtant. D'où lui venait donc cette hésitation? De ce qu'il avait reconnu Valvert. Et, l'ayant reconnu, aussitôt cette pensée s'était implantée dans son cerveau. « Je vais subir ici le même traitement qui m'a été infligé devant toute la cour. » Et cette pensée l'affola à ce point qu'il demeura cloué sur place. Et, au lieu de dégainer et de bondir, sa main alla chercher le poignard caché sous le pourpoint, bien résolu à se le plonger dans le cœur plutôt que de subir une fois de plus une humiliation pareille. Cependant, il avait dégainé et il s'avançait. Ses hommes, comprenant qu'il était dans son droit, s'étaient rangés pour lui faire place, avaient formé le cercle. Seulement, la plupart d'entre eux s'étaient placés entre les deux amoureuses et la porte, leur barrant ainsi le passage. D'ailleurs, aucun d'eux n'avait dégainé. Rospignac, seul pour l'instant, avait le fer au poing. Valvert, voyant venir Rospignac l'épée à la main, s'était arrêté. Instantanément, il avait mis la rapière hors du fourreau. En même temps, d'un geste d'une douceur infinie, qui contrastait avec le geste violent de sa main droite, il avait écarté Florence, et il était tombé en garde. L'engagement fut bref, foudroyant. Sans une feinte, sans un battement, risquant vie pour vie, Valvert se fendit dans un coup droit, furieux, irrésistible. Rospignac lâcha son épée, battit l'air de ses bras et tomba à la renverse pour ne plus se relever. Alors Valvert se retourna. Sans en avoir l'air, du coin de l'œil, il avait très bien vu la manœuvre des ordinaires qui s'étaient massés devant la porte. C'était à travers cette bande de loups qui ne tarderait pas à montrer les griffes qu'il lui fallait passer. Avec une inexprimable douceur, il prononça « Suivez-moi, ne me lâchez pas d'une semelle, et n'ayez pas peur. » Vaillante, elle répondit dans un sourire « Je n'ai pas peur, allez, je vous suis. » Et il alla, l'épée rouge au poing, un peu étonné de voir qu'il ne dégainait pas. Concini se dressa devant lui. Concini tout seul. L'épée au côté, les bras croisés sur la poitrine, il souriait d'un sourire sinistre, sûr de lui. Il était le père, lui. Il savait bien que le naïf amoureux n'oserait pas frapper le père de sa bien-aimée. La manœuvre lui avait réussi une fois déjà. Pourquoi Cristaccio ne réussirait-elle pas encore? En effet, Valvert ne le frappa pas. Seulement, d'une main, il l'écarta. Une seule main, un seul geste. Mais un geste foudroyant, d'une force telle que Concini alla rouler au milieu des chaises renversées et des bancs. Alors meurtri, ivre de honte et de fureur, il hurla « Sus, tuez ! Tuez, tuez-les tous les deux !» rugit Léonore, laissant éclater la haine furieuse, inconsciente, qui, à son insu peut-être, avait dicté tous ses gestes jusque-là. Une clameur formidable, faite de 20 clameurs isolées, hurlante à la mort, répondit à ces deux excitations sauvages. Instantanément, tous ces spadassins aux faces convulsées se trouvèrent le fer à la main. Alors, un frisson d'angoisse et d'épouvante le secoua de la nuque au talon. Il eut peur, une peur horrible. Non pour lui, mais pour elle. Et il tourna la tête de son côté. Dans ses yeux de démon qui hurlaient une imprécation farouche, elle lut comme en un livre ouvert. Et elle sourit bravement. Et d'un double geste rapide comme un éclair, elle sortit un poignard de son sein, lui jeta un bras autour du cou et le baisa sur la bouche en murmurant « Ils ne mourront pas vivantes, nous mourrons ensemble !» électrisé par ses paroles, enivré par la sensation à la fois violente et très douce de ce baiser d'amour, le premier qu'il recevait d'elle, transfiguré, rayonnant, fort comme Samson et conscient de sa force, il brava, sûr de lui. Mourir ? Allons donc, nous allons passer sur le ventre de ce troupeau de vils chiens couchants et nous vivrons, ma chère âme. Aussitôt il se rua, fonça droit devant lui, frappant de la pointe du revers, à droite, à gauche, devant lui, partout, avec la rapidité et la force de la foudre. Du sang gicla, des plaintes sourdes, des râles se firent entendre. Des hommes tombèrent, qui ne devaient jamais plus se relever, comme Rospignac, là-bas, et parmi eux, Énos. Mais ils étaient heurtés à un triple cordon de pointes acérées. Il frappa bien dans le tas, mais il fut lui-même ensanglanté, déchiré. Et il ne passa pas. Il ne passa pas, et derrière lui, le cercle se ferma. Il se vit pris, perdu. Alors il eut une inspiration, telle qu'on en a de pareille quand ces secondes effroyablement critiques, où on vit double. Il mit son épée dans la main de Florence, se baissa, tira à lui, enleva un banc. C'était un banc en chêne massif, long de plus d'une toise, solide, pesant. Il prit par une extrémité et s'en servit comme le faucheur se sert de sa faux. D'un geste large, pivotant sur les talons, suivi dans tous ses mouvements par Florence qui, avec une adresse et une précision remarquables, se tenait pour ainsi dire collée à son dos, il traça autour de lui un cercle large de toute la longueur de la masse qu'il maniait comme une plume. Tout ce qui, par un bond agile, ne se mit pas hors d'atteinte de l'énorme masse, fut renversé, brisé, balayé, comme fêtu par la tourmente. Ceux qui furent épargnés reculèrent précipitamment. Alors il éclata d'un rire terrible, et il avança, fauchant tout devant lui, à tour de bras. Ils étaient braves, les spadassins de Concini, et la rage, la haine, la honte exaspéraient encore leur bravoure jusqu'à la fureur. Mais que faire contre cette masse de bois qui les tenait à distance et contre laquelle leurs épées se brisaient comme verre? Il fallut bien qu'ils s'écartassent. La porte se trouva dégagée, le passage était libre. Qu'arriverait-il ensuite? Ah, pardieu, Valvert ne perdit pas son temps à se le demander. Il fallait d'abord sortir de cette église qui se changeait en coupe-gorge. On verrait ensuite, et il n'hésita pas. « Passez, » dit-il. D'un bond vif et léger, elle s'engouffra sous le porche. Elle y arriva en même temps qu'un grand diable qui, tête baissée et rapière au poing, se précipitait à l'intérieur. Ce grand diable, c'était Landry Coquenard qui, ayant entendu les paroles de Dame Nicole, s'était inquiété à son tour et s'était aussitôt rendu rue aux Fers. Landry s'arrêta net en voyant la jeune fille. Et sans perdre une seconde, d'une voix altérée par une course rapide, « Il y a un carrosse à la porte, montez dedans, » dit-il. Il était temps qu'il parlât. Déjà, elle levait le poignard sur lui. Si elle n'avait pas reconnu sa voix, c'en était fille du digne Landry. Elle ne s'attarda pas non plus, elle. Elle avait conservé un sang-froid admirable en une circonstance aussi critique. Elle lui glissa dans la main l'épée sanglante de Valvert avec ce seul mot « Odé ». Et elle alla droit au carrosse dans lequel elle se hissa vivement. Landry avait compris. Il poussa aussitôt un « hi-han » formidable, suivi des cris perçants du cochon consaigne. Il savait bien que c'était la meilleure façon de signaler sa présence à son maître. Valvert, à ce moment même, lançait son banc à toute volée sur le groupe des assaillants qui, avec des clameurs épouvantables, le serraient de trop près et il sauta sur la porte. Il tomba presque dans les bras de Landry. Le brave écuyer eut deux mouvements qu'il exécuta avec tant de rapidité qu'ils n'en firent qu'un. Il lui remit son épée dans la main et, en même temps, il le saisit par le bras et l'entraîna en disant « Au carrosse, monsieur, sautez sur le siège et ne vous occupez pas de moi. » Ils y furent en un bond sur ce carrosse. Un autre bond et Landry se trouva en postillon sur un des deux chevaux de volée. Il leva le bras et tourna la tête. Il vit que Valvert avait bondi sur le siège. Il abattit le bras et, de la pointe de l'épée, se mit à piquer sans pitié le cou du cheval, en même temps qu'il lui martelait les flancs à coups d'éperon furieux. Il y avait un cocher sur ce siège, sur lequel Valvert venait de bondir. Il dormait à poing fermé. Tranquillement, Valvert lui arracha d'une main les guides qu'il avait passés à son bras. De l'autre main, il le saisit au collet et le secoua rudement en ordonnant « Saute !» Réveillé en sursaut, le pauvre diable vit ce visage flamboyant penché sur lui. En même temps, il fut assourdi par les hurlements de la bande qui sortait de l'église en se bousculant. Effaré, il crut que sa dernière heure était venue et il obéit sans hésiter. Non seulement il sauta, mais encore, pris de terreur panique, il s'enfuit à toutes jambes. Piqués impitoyablement par Landry, foyés à tour de bras par Valvert qui avait saisi le fouet, les chevaux s'ébranlèrent, partirent en un galop effréné, au moment précis où les estafiers de Concini sautaient dans la rue. Sans réfléchir, ils se lancèrent tous à la poursuite du carrosse en hurlant « Arrête !» On comprend bien que Valvert n'eut garde de les écouter et, tout au contraire, simula davantage ses chevaux. Au bout de quelques minutes, le carrosse avait disparu dans la nuit et c'eût été folie que de s'obstiner à vouloir le rattraper. C'est ce que se dirent les ordinaires qui lâchèrent pied les uns après les autres. Et quelques autres minutes plus tard, le carrosse venait s'arrêter devant la porte charretière, d'ailleurs fermée, du grand passe-partout. Valvert revenait à l'auberge, moins d'une heure après son départ précipité. Personne ne s'était encore couché ou recouché, ce qui fait qu'on répondit sur le champ à son appel. Une heure plus tard, la porte charretière s'ouvrait de nouveau pour livrer passage au carrosse. Sur le siège se tenaient, grave, et les guides dans une main, le fouet dans l'autre, Landry Coquenard qui, décidément, savait tout faire. Dans le carrosse, Florence, la petite Loïse et la brave mère Perrine. Florence tenait sur ses genoux l'enfant chaudement enveloppé. Et l'enfant, ses petits bras blancs et potelés passés au cou de la jeune fille, lui glissait confidentiellement à l'oreille, avec un accent de tendresse profonde. « Tu sais, maman Muguette, puisque tu le veux, j'aimerais bien maman Bertille que nous allons voir. Mais ma vraie maman, que j'aimerais toujours plus que tout, ce sera toujours toi, maman Muguette. » Derrière le carrosse, Gringaille et Escargasse, à cheval, armés jusqu'aux dents. Enfin, à une portière, Valvert montait sur un des magnifiques chevaux que le roi lui avait donnés, et près de lui, à pied, Pardaillan. Tout ce petit monde s'en allait à Saugis, à l'exception du chevalier qui restait, lui. C'était Pardaillan qui, en voyant le carrosse, avait eu l'idée de ce départ nocturne, si précipité qu'il ressemblait fort à une fuite. Et c'était bien une fuite, à peu près, puisqu'il s'agissait, en la cachant à Saugis, chez Jehan de Pardaillan, de la mettre hors de l'atteinte de Concini, qui, armé de ses droits de père, ne manquerait pas de faire rechercher sa fille et de la ramener de force au domicile paternel s'il la retrouvait. Valvert, qui ne craignait rien tant que de voir sa fiancée retomber aux mains de la vindicative Léonore, s'était assez facilement laissé persuader de la nécessité de ce voyage, qui, d'ailleurs, avait aussi un autre but généreux, ramener au plus vite la petite Loïse dans les bras de ses parents qu'il a pleuré depuis si longtemps. Il convient de dire que, la veille encore, Valvert n'eut pas hésité à confier Florence à la garde de Gringaille et d'Escargasse en refusant de quitter le chevalier. C'est que, la veille, ils étaient encore en pleine lutte avec Fausta et qu'il se fût cru déshonoré en désertant son poste de bataille. Mais aujourd'hui, après la besogne accomplie à Montmartre, il n'en était plus de même. Aujourd'hui, ils le savaient bien, ils avaient arraché les griffes et les crocs à cette tigresse qui s'appelait Fausta. Elle ne pouvait plus rien contre le roi, ni contre Pardaillan lui-même. Irrémédiablement battue, elle n'avait plus qu'à fuir, et le plus promptement possible. Ce qu'elle ne manquerait pas de faire. C'était donc sans scrupule et sans inquiétude aucune qu'il laissait ce vieil ami qu'il affectionnait et vénérait comme un père. D'autant que, somme toute, il ne s'agissait que d'une séparation momentanée de quelques heures. Pardaillan avait promis de les rejoindre le jour même à Saugis, et mieux que personne, il savait que Pardaillan tenait toujours sa promesse. Néanmoins, après les dernières embrassades, voyant que le chevalier, un peu pâle, s'était fait une physionomie de glace en tortillant sa moustache grise d'un doigt nerveux, indice certain d'une émotion violente qu'il ne voulait pas laisser voir, il fit une suprême tentative et, avec son sourire le plus engageant, de sa voix la plus insinuante. « Allons, laissez-vous faire, monsieur. Il y a une bonne place pour vous dans ce carrosse entre votre fille Florence, qui sera aux petits soins pour vous, et votre petite fille Loisette, qui vous fera un collier de ses petits bras. » Pardaillan recula de deux pas et, imitant les gestes du prêtre qui exorcise, « Arrière, tentateur » fit-il en riant. Et, subitement sérieux, dans un grondement menaçant, « Après tout le mal qu'elle a fait, laissez partir Madame Fausta sans lui infliger la leçon qu'elle mérite. Par Pilate, je ne me pardonnerai de ma vie pareille faiblesse. » Et, de sa voix de commandement, « Fouette, Landry, fouette !» Le carrosse s'ébranla, disparut dans la nuit.